cette Bible qui est précieuse, à travers laquelle nous découvrons des choses qui parlent de toi, qui nous instruit sur toi et sur ce que nous devons faire avec toi et comment nous devons le faire. Seigneur, merci. Nous voulons ouvrir cette Bible en pensant à toi et nous voulons que tu nous illumines par le Saint-Esprit. Parce que tu dis, Seigneur, que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Tu dis aussi, Seigneur, que les paroles que tu nous dis sont esprit et vie. Puissent-elles pénétrer nos cœurs, transformer nos vies, nous imprégner de toi chaque jour, Seigneur. Amen. Luc chapitre 22. Nous allons lire du verset 31 au verset 34, un péricope. Alors, maintenant, c'est l'épreuve pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Hein. Ceux qui comptaient beaucoup sur ça et qui n'ont pas leur Bible, voilà l'épreuve à nouveau, là. Hein, hein Simon? Luc, chapitre 22, c'est la première fois que ça arrive, hein. Ça n'arrive jamais, donc ne pensez pas que tous les dimanches nous chipotons comme ça, hein. C'est pas vrai, donc je rassure les parents d'Adrien, ça se passe pas toujours comme ça, ça c'est, voilà. Ah, ça se passe chez vous aussi. Je suis consolé. Sinon, je vais lire dans le texte, vous écoutez. Hein. Ah, ben voilà. Luc 22, 31-34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié trois fois de me connaître. Comme nous l'avons dit au début du culte, nous avons dit que ce qui va nous servir de fil conducteur dans cette période de l'ascension, ça va être cette idée du moment de passage. Ascension comme étant le passage, le moment où on nous donne le témoin, on nous passe le témoin pour continuer la course. C'est le moment où les disciples commencent leur course, leur carrière, leur travail, leur service pour Dieu. J'aimerais ce matin que nous puissions réfléchir ensemble sur les moyens de réussir notre course en tant que disciples de Jésus-Christ. Et je propose que cette petite réflexion, nous puissions le prendre à travers l'apôtre Pierre, comme modèle de disciple. Et voir à travers son parcours, qu'est-ce qui peut nous aider à aussi aller de l'avant. Donc, le titre que je donne à la prédication, c'est « À l'ascension, Christ nous passe le relais. Petite méditation à travers le ministère de Pierre. » Juste une petite méditation. J'espère ne pas être long, même si j'ai quand même tellement appris en travaillant ça, que je ne sais pas si je ne manquerai pas d'être très bavard. Donc, si nous restons jusqu'à 16 heures, vous me pardonnez. Non, ils doivent repartir aujourd'hui, hein, en Angleterre. Hein. Donc, on va quand même être gentil. On va arrêter dans l'heure, puisque sinon, ils ne sauront pas prendre leur moyen de transport pour retourner. Hein. Cet extrait, ce péricope, comme on l'appelle, hein, le péricope, ça te dit quelque chose, hein, Adrien? Voilà. C'est le langage des gens là qui étudient la Bible dans une école de théologie, là. Alors, ce péricope que nous venons de lire, dans cette partie du 31 à 34, hein, évoque un épisode de la vie de l'apôtre Pierre, un épisode de la vie dans sa relation avec Christ. Cela se passe juste avant que Jésus n'aille dans le mont des Oliviers, où il va aller prier dans la douleur. Cela se passe juste avant les souffrances par lesquelles Jésus va passer pour pouvoir mourir à la croix et nous sauver. C'est ce moment-là. Dans ce texte, j'aimerais puiser deux choses qui peuvent aussi nous faire réfléchir. Deux choses dans la réalité de Pierre que nous pouvons regarder aussi dans notre réalité à nous aussi. Deux choses. Mais peut-être avant de pouvoir en parler, juste un petit mot sur Pierre. Vous le connaissez, c'est la star des apôtres, c'est l'apôtre le plus connu, celui dont on parle le plus. Il y a juste un petit concurrent à côté de lui, c'est l'apôtre Paul, mais je pense que Pierre quand même le dépasse. Bon, façon de parler, je pense que eux, si je leur disais comme ça, ils disaient arrête. L'apôtre Pierre nous est connu parce que c'est un homme qui est présent autour de Jésus, qui est présent dans l'œuvre de Dieu et qui est présent, parfois malheureusement pour lui, aujourd'hui encore. L'apôtre Pierre est celui qui s'est tourné à Jésus, probablement qui était disciple de Jean-Baptiste, et qui s'est tourné à Jésus grâce à son frère André, qui est venu lui dire « Nous avons trouvé peut-être le Messie ». Et quand il a rencontré Jésus, ça a été une rencontre tellement forte qu'il n'a plus arrêté de suivre Jésus. Il allait partout avec Christ. Souvent, il est mis en avant-plan. Il est souvent considéré comme le premier. Il est souvent considéré comme celui qui a la parole le premier. À la Pentecôte, c'est lui qui va parler. Devant le Sanhédrin, c'est lui qui va parler. C'est souvent lui qui est présenté en premier plan. Pourtant, son trajet de vie va montrer que, à la fin de sa vie, il va se mettre volontairement lui-même en dernier plan. L'apôtre Pierre, c'est celui qui, il était marié probablement, puisqu'on fait allusion quand même à sa belle-mère, et il a vécu longtemps. Il est mort supplicié, peut-être à Rome, on ne sait pas exactement, mais il n'y a aucune donnée biblique qui peut préciser là-dessus. Il est très connu malheureusement pour lui aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec l'Église catholique, où l'on affirme qu'il serait le premier pape, qu'il aurait été évêque pendant 25 ans, avant de devenir le premier pape. Donc, tous les papes sont des successeurs apostoliques, parce qu'ils sont des successeurs de Pierre. C'est ce qu'on dit dans l'Église catholique. Mais malheureusement, pour nos amis catholiques, il n'y a aucune donnée biblique là-dessus. La Bible, nulle part, dit même que Pierre aurait travaillé à Rome. Aucune donnée. Je ne vais pas rentrer dans les critiques de ce qui est écrit dans la Bible, mais il est un fait évident que Pierre n'a jamais été à Rome. Ou s'il a été, c'était juste pour aller y mourir, mais n'a jamais fait un travail à Rome. Dans cette histoire où il serait le premier pape, on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça ne vient pas de la Bible. Et de toute façon, quand Jésus disait « Tu es Pierre », sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne s'agissait pas de lui, Pierre. Ou si c'est de lui, Pierre, il s'agissait de lui, Pierre, en tant que pierre vivante, avec les autres pierres. C'est ce que Pierre lui-même le dit dans son épître, n'est-ce pas ? Première épître de Pierre au chapitre 2, il dit lui-même « Approchez-vous de lui. Vous, pierre vivante, approchez-vous de lui, qui est la pierre angulaire. » Donc, même lui-même, l'apôtre, avait compris que la vraie pierre sur laquelle se fonde le christianisme, le roc, c'est Jésus, c'est pas lui. Bref, revenons à notre réflexion. On va pas aujourd'hui commencer à embêter nos amis les catholiques avec des histoires pareilles. Question. Qu'est-ce que ce texte nous dit par rapport à la manière dont Paul... j'aime trop Paul, excusez-moi. Donc chaque fois que je dis Paul, vous vous dites Pierre, ok? Ça sent comme dans un jeu. Alors, qu'est-ce qui, dans la réalité de l'apôtre Pierre, peut nous donner des enseignements sur la manière de réussir notre course de relais? Mes amis, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'être des chrétiens debout. Le monde, et particulièrement le monde laïque, mais la laïcité, je parle de la laïcité en Belgique, qui est ce mouvement qui refuse que Dieu devienne le conducteur de la vie des hommes et des femmes. La laïcité en tant que ce mouvement qui refuse que l'homme se plie volontairement, se soumette volontairement à Dieu au nom de plusieurs points de vue que ça sert à rien dénoncer, mais toujours est-il que qui empêche cela. Cette laïcité, elle est devenue militante aujourd'hui. Elle ne se contente plus simplement de dire « Je respecte votre point de vue. Vous croyez en Dieu, je vous laisse tranquille. Je suis, moi, agnostique, c'est-à-dire que la question de Dieu est une question qui n'est pas à l'ordre du jour dans ma vie. » La laïcité va beaucoup plus loin maintenant. Elle dit non seulement « Moi, je ne veux pas de Dieu dans ma vie à moi, mais je ne veux pas de Dieu dans la vie des autres autour de moi. Je ne veux pas de Dieu dans le pays. » On commence tout doucement. D'abord, maintenant, le premier combat, c'est supprimer le cours de religion. Demain, ça va être supprimer les églises. Ou faire comme en Russie, limiter au maximum les règles, les lois. Vous devez aller à l'église de telle heure à telle heure. Vous devez prier ça, mais jamais ça. Le but étant, en fin de compte, d'éradiquer l'idée de Dieu. Notre rôle aujourd'hui, mes bien-aimés, est de revaloriser le christianisme, de faire de nous, chacun de nous, des espèces de sel qui donnent de la saveur. Des gens qui, contrairement à tout ce que les gens pensent, diront mais ils sont quand même chouettes ces chrétiens. Ils sont quand même bien. Ils ont quelque chose qui peut m'apporter aussi dans ma vie. C'est notre rôle. Nous avons le témoin aujourd'hui. C'est nous qui sommes dans la course. C'est nous aujourd'hui. Peut-être que vous croyez que nous sommes peu nombreux. Mais souvenez-vous, il était tout seul Jésus. Il a proclamé le message à 12 personnes. Ces 12 personnes sont devenues 120, non 70, puis 120, puis 500, puis 3000, puis... On ne sait plus. Aujourd'hui, si on regarde le christianisme, il y a des milliards. C'est la première religion la plus importante au monde. Le christianisme aujourd'hui est partout dans le monde. C'est à nous le relais aujourd'hui. Alors, peut-être deux choses qui, dans la vie de l'apôtre Pierre, dans ce texte, à travers ce texte, pourraient peut-être nous aider. La première chose, au verset 31 et 32. Jésus annonce à Pierre, mon ami, et il appelle Simon, mon ami, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Satan vous a réclamé pour vous cribler, Satan vous a réclamé pour vous faire mal, Satan vous a réclamé pour mettre votre foi à l'épreuve. Et la manière dont Jésus parle, ça montre que c'est une voie inévitable, que c'est pas, il n'a pas le choix, c'est comme ça que ça va aller, ça va se passer comme ça. Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il l'informe, il lui dit pas, peut-être que Satan va le faire, s'il est gentil, il va pas le faire. Non! Il va le faire, c'est sûr. C'est sûr. Jésus informe Pierre que Pierre va connaître des épreuves et que ces épreuves vont le secouer comme on crible le froment pour en sortir la poudre qui va former la farine qui permettra de faire le froment. On va le secouer. Il va rentrer dans une zone de turbulence. Ceux qui ont déjà voyagé en avion savent ce que ça veut dire, une zone de turbulence. C'est cette zone où vous allez, c'est très inconfortable. Vous voyez l'avion qui bouge dans tous les sens, et alors le commandant qui vous dit, fermez vos ceintures de sécurité, puisque bon, nous sommes dans une zone bizarre maintenant. Et parfois, quand ça s'écoute très, très, très fort, le machin là qui descend pour le truc de sécurité, pour ça descend tout seul, parce que ça s'écoute très fort. Et je peux vous assurer que si vous regardez du côté de Hublot, et que, en plus, il y a la tempête, et que c'est la nuit, c'est pas rigolo, hein. On est plein d'angoisse, on a peur. Moi, je me souviens toujours d'un voyage que j'ai fait. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'avait amusé beaucoup. Enfin, amusé, c'est pas sur le coup, en tout cas. L'avion était en train de voler. Tout d'un coup, là, le pilote nous a annoncé. Il n'a même pas eu le temps de terminer sa phrase en disant, attention, nous sommes dans une zone 2. Et alors, j'avais mon gobelet avec du lait ou du soda ou peu importe. Et alors tout d'un coup l'avion qui fait vous qui descend, ça soulève le cœur et tout ça. Et tout d'un coup moi, j'étais tellement surpris par le mouvement que je lâche mon verre. Alors j'ai vécu quelque chose de magnifique scientifiquement parlant. J'avais de l'eau, monte ma tasse et moi en dessous. C'est quelque chose qui m'avait... Ça m'a marqué, hein. Ça m'a marqué. Jésus annonce à Pierre qu'il va rentrer dans une zone de turbulence. Que ça va secouer. Qu'on entre dans une zone d'inconfort. Que là, ça va aller mal. Et ce qui est surprenant, c'est que Jésus ne dit pas à Pierre, « Oh Pierre, j'ai vu tout ça. » J'ai prié pour toi pour que ça ne vienne pas, que tu n'aies pas ces épreuves-là. Non, 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 j'ai prié vraiment. Et t'en fais pas. Désormais, tu n'auras pas ces épreuves-là. Sois calme. Non, non. Il dit, non, non. Il dit, moi, j'ai prié pour toi pour que toi, tu ne perdes pas la foi. Autrement dit, l'épreuve, tu l'auras. Tu l'auras. Ça va secouer. Ça va secouer ta foi. Mais moi, j'ai prié pour que tu ne tombes pas. Que ta foi ne défaille pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus n'a-t-il pas prié dans ce sens-là? Quand on regarde le texte, on voit que c'est parce que l'épreuve fait partie de la formation du disciple. Tout disciple doit passer par des moments des épreuves. La souffrance, l'inconfort, les contretemps, les imprévus, le rejet, les humiliations, les insultes. Toutes ces choses, eh bien, elles font partie des moyens utilisés par Dieu pour nous former. Former notre caractère. Former ce que nous sommes. Dans la vie de Pierre, il y a trois étapes faciles à repérer dans la Bible. Première étape, c'est dans les évangiles. Deuxième étape, c'est dans les actes des apôtres. Troisième étape, c'est dans les épîtres. Fastoche, hein. Première étape, dans les évangiles, c'est un Pierre qui est au contact avec Jésus, qui vit auprès de Jésus. Tout va bien. Deuxième étape, c'est un Pierre actif. C'est celui qui lance la dynamique spirituelle. Celui qui est dans la lancée de l'implantation d'église, du travail d'église. C'est le Pierre qui est à la fois l'homme qui veille sur la sainteté, qui veille sur le respect de la parole de Dieu, qui est attaché à Christ, qui est un modèle, etc. Troisième étape, c'est les épîtres. C'est un Pierre assagi. C'est un Pierre calme, humble. C'est un Pierre qui, tout doucement, sait qu'il est arrivé à la fin de sa vie. Et il joue un autre rôle, un rôle plus effacé. D'ailleurs, c'est touchant. Quand vous regardez comment, dans cette épître, dans les épîtres, il commence à reconnaître la valeur de Pierre, de Paul, la valeur de Jude. Il dit, voilà, l'apôtre Paul a écrit des choses très intéressantes. C'est un peu dur, mais vraiment, c'est un frère bien-aimé, etc. Il parle de Jude, etc. On voit cet homme qui se retire tout doucement, qui prend la posture du conseiller, de celui qui dit, c'est pas moi qui dirige maintenant, c'est vous autres aussi. Il a compris lui aussi. Il a compris que la vie, c'est cela. La vie spirituelle, c'est cela. Notre but est de nous passer le relais, les uns les autres, pour que d'autres continuent la course pendant que moi, lorsque j'arrive vers la fin de ma course, je me retire tout doucement. Je me retire activement, je reste conseiller, je reste encadreur, mais je me retire tout doucement. Et nous sommes ici à la fin de sa première étape. Et il doit se passer quelque chose pour que sa deuxième étape soit une étape réussie. Et cette chose, c'est le reniement. C'est l'épreuve du reniement. À travers le reniement, Pierre va apprendre à connaître le Seigneur. Pierre l'impétueux va être ébranlé dans son assurance. Il va être brisé. Le reniement va être quelque chose de terrible pour lui. D'ailleurs, vous avez vu, quand le coq va chanter et qu'il a compté le nombre de fois qu'il a renié Christ, comme on le dit dans le texte, au verset 34, là, il va pleurer amèrement. Il va pleurer sur lui. Il va pleurer sur sa faute. Jésus lui annonce qu'il va le renier. Mais Pierre est trop sûr de lui. Il est trop sûr de lui, il n'y croit pas. Seigneur, verset 33, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Il est sûr de lui. Pourtant, Jésus le connaît. Pourtant, Jésus sait toutes choses. Mais Pierre croit que, avec sa volonté, avec sa force, il va tenir et rester fidèle. Il comptait sur lui-même, sur ses propres ressources. Pierre va apprendre à travers cette douloureuse expérience du reniement, il va apprendre que le maître avait raison, que le maître a toujours raison, que ses avertissements sont à prendre vraiment au sérieux. Quand il dit quelque chose, c'est vrai! Il faut savoir que c'est vrai. Il va apprendre à dépendre de son maître. À savoir que finalement la vie, c'est pas ce que lui veut. C'est ce que le maître veut. Il va apprendre à agir comme le maître le souhaite. Il va surtout apprendre que pour servir le maître, il faut changer de caractère. Il faut avoir ce caractère qui est propre au ministère. Pourtant, dès la première rencontre, souvenez-vous, il s'appelait comment Pierre, avant? Il s'appelait Simon. C'est Jésus qui va lui dire, tu vas t'appeler Cephas ou Pierre, c'est la même chose. Jésus avait déjà commencé à changer son nom, parce qu'il avait question de transformer son caractère. Et le changement du caractère n'est possible qu'à travers les épreuves. Parce que les épreuves nous obligent à nous remettre en question. Les épreuves nous obligent à être plus sages avec nous-mêmes. Deuxième chose. Ah, pardon. Peut-être avant, juste passer à la deuxième chose. Vous avez remarqué une chose. Satan, il est méchant. Vous êtes d'accord? Jésus, il est plein de compassion. Vous êtes d'accord? Ok, on passe à la deuxième chose alors. Deuxième chose, verset 32. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Je m'arrête là. Il a prié pour Pierre et pour, je suppose, les autres disciples. Jésus est plein de compassion. C'est un maître plein de compassion. Il va pas dire « Pierre, tu vas rater ton examen. Et quand tu auras raté ton examen, maman mia, qu'est-ce que tu vas souffrir avec moi ?» Non. C'est pas des menaces. Il sait qu'il va rater son examen. Il le sait. Mais il dit, je priais pour toi. J'ai prié pour toi. Et nous pouvons continuer la suite. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il prie et il lui confie une tâche. Vous imaginez? Vous avez un enfant, c'est un véritable cancre. Oh, pardon. Tous les enfants du monde sont des enfants très bien. Mais il peut arriver que vous ayez parfois un cancre. Malheureusement, ça peut arriver. Enfin, je ne vous le dis pas. Vous imaginez quelqu'un d'autre que vous, hein? D'accord? Vous avez un enfant qui a un cancre. Il est complètement nul, lui, les études. Il fait que des catastrophes. Imaginez un père ou une mère qui dit à son fils, à ce fils cancre, oh, tu sais quoi? Le jour où tu vas sortir de ton caractère de cancre, okay, tu vas faire des grandes choses. C'est pas comme ça qu'on raisonne, nous, les hommes, hein. On envoie un cancre, on dit, toi, tu es un cancre, tu resteras un cancre toute ta vie. Rien à faire, toi, c'est fini. Et on va, non seulement on va le lui dire, mais on va le dire aux autres, comptez pas sur lui, c'est un cancre. Jésus croit qu'il est possible avec Pierre, malgré le reniement, il est possible que Pierre puisse le servir et lui confie d'avance une tâche. Et quelle tâche? Il lui dit, toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Waouh! Affermis tes frères. La deuxième chose que je voulais dire, qu'est-ce qui peut nous aider aussi, qu'est-ce qui a aidé Pierre? C'est le relèvement. Le voilà qui a une tâche qui est importante. C'est la tâche de veiller sur le fait que les autres soient solides dans leur foi et dans leur vie chrétienne. Le fait de travailler pour que les autres grandissent. Alors qu'il est écrasé de culpabilité d'avoir renié Jésus, hein, et en plus, circonstance aggravante, Jésus lui avait annoncé. Mais alors qu'il est écrasé par cette culpabilité, Jésus va le retrouver après la résurrection et va lui dire, Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Un Pierre actif, un Pierre ardent, totalement dévoué à Christ. Jésus l'appelle. Jésus ne choisit pas nécessairement ce qui est apparemment beau et parfait. Il ne prend pas que des gens qui sont très chouettes, très capables, très compétents, très organisés, très bien, très très bien. Non, Jésus prend qui il veut. Et il fait de lui ce qu'il veut. Malgré les imperfections de Pierre, c'est pourtant lui que Jésus appelle. Jésus lui donne une tâche importante. Voilà la deuxième chose à laquelle je voulais aussi m'arrêter en ce qui concerne ce texte pour Pierre. La deuxième chose, c'est que Dieu nous appelle à le servir, en affermissant les autres. Une des bases du service, c'est toujours notre service, c'est toujours vers les autres. C'est toujours en visant les intérêts des autres. Nous avions un parti politique au Congo qui s'appelait le MPR. Et le MPR avait comme devise, un père égale servir. Se servir, non. Mais, l'idée qui était derrière, c'est que on ne doit pas se servir, on doit servir les autres. Et les autres doivent me servir, et dans cette réciprocité, on s'enrichit. Bon, évidemment, c'est un fait humain. Le MPR, tout le monde s'est servi pour lui-même. Hein. Le chrétien est appelé à servir les autres. À les servir comment ? À les servir en les faisant grandir. En faisant en sorte que les chrétiens fassent des pas en conséquence. Ils aillent de l'avant et grandissent. Et Pierre va s'acquitter de sa tâche. Il va faire un grand boulot. Avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'engagement, il va faire ce travail. Alors, juste pour avancer et achever, qu'est-ce que ces deux choses aujourd'hui peuvent nous dire? Qu'est-ce que cela peut nous dire aujourd'hui? Première chose, si nous voulons continuer l'œuvre que Jésus a laissée à ses disciples aujourd'hui, encore, nous devons nous laisser transformer par les épreuves de notre foi. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, c'est la motivation de Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les épreuves construisent notre vie spirituelle. Parce que les épreuves changent notre caractère. Ici, en l'occurrence, l'épreuve rend patient, rend quelqu'un capable de se maîtriser, capable de ne pas être emporté, d'être maître de lui-même, rend quelqu'un capable d'être discipliné, rend quelqu'un capable d'aimer même les personnes qui ne méritent pas d'être aimées. Rend capable d'avancer, même quand autour de soi, on est dans la turbulence la plus complète. Capable d'espérer. Capable de joie au milieu des grandes tribulations. Capable de paix au milieu de tout, de la guerre. Les épreuves changent nos caractères et rendent nos caractères semblables à ce que Dieu veut. Les épreuves m'apprennent à laisser le Saint-Esprit agir en moi et produire son fruit en moi. À travers les épreuves, j'apprends à développer le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, bon, ce qui me frappe, et c'est ça qui a peut-être motivé un peu, quelque part, quand j'ai médité, de m'arrêter sur cette réflexion. Ce qui me frappe aujourd'hui, j'ai parlé avec un jeune il n'y a pas très longtemps. Et le jeune qui me dit, moi j'aime les filles. Il a 16 ans, hein. Pardonnez-le. C'est typique de jeunes de 16 ans. Hein. Toi tu bouges tes oreilles. Hein. Il dit, moi j'aime les filles. Et je ne sais pas m'en passer. Quand j'aime une fille, je la regarde tout le temps, mais tout le temps, fixement. Dans mon cœur, j'ai dit, ouh, si c'était moi une fille, je lui donnerais une de ses gifles. Enfin, bon, ne soyons pas sauvages. Et je regarde tout le temps cette fille que j'aime. Je la regarde, sans arrêt. Et puis, je lui dis, tu sais, je pense que un chrétien, parce que c'est un jeune qui est chrétien, hein, je pense qu'un chrétien devrait apprendre à s'imposer une discipline. Et je remarque une chose, les chrétiens ont perdu la discipline. S'imposer de prier à telle heure. S'imposer de lire sa Bible chaque jour. S'imposer de ne pas insulter. De ne pas s'énerver là où il faut pas s'énerver. De ne pas agir contre la volonté de Dieu dans un endroit. Les chrétiens n'ont plus la discipline. Aujourd'hui, on se laisse aller. J'ai envie de te dire les quatre vérités. Et ben, je te regarde. Fred, regarde-toi avec ta barbe. C'est parti. Ah oui, je sais qu'il aime bien sa barbe, donc au moins il va pas m'en vouloir avec ça. Les chrétiens, nous avons perdu le sens des disciplines. Quelque part, on a perdu la dimension du disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, mais ne le suit pas en discutant. Un disciple ne discute pas avec son maître. Un disciple, il fait ce que son maître lui demande. Hier, on avait colloque régional ici. Stephen Trump, votre ancien pasteur, était celui qui avait apporté la méditation sur l'éducation des enfants. Mais il nous a secoué avec des trucs. Et tout d'un coup, moi, ce qui m'avait frappé, il a dit, quand quelqu'un sait que ce qu'il ne veut pas faire, c'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un sait que ça, c'est la volonté de Dieu, mais ne le fait pas, il pêche. Là, j'ai sursauté. Ouh! Combien de fois nous savons ce qui est de la volonté de Dieu, mais on ne le fait pas. Un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. Apprenons à nous discipliner pour le Seigneur. La discipline, mes amis, c'est par exemple, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Je dois prier. Mais voilà qu'il y a cette émission à la télévision que j'aime beaucoup, Ushuaïa, par exemple. Enfin, c'est comme ça. C'est ce qui me vient en tête. Qu'est-ce que je fais? Je prie ou je regarde mon émission? Si je regarde mon émission d'abord, après je suis fatigué, j'ai pas envie de prier. Si je prie, je rate mon émission. Je fais quoi? Mais qui suis-je d'abord? Je suis chrétien? Alors je prie. Mes amis, je vais juste vous sensibiliser à ça. Nous sommes devant la situation où de plus en plus il y aura des épreuves. L'ennemi ne va ménager aucun effort pour nous malmener, nous casser dans notre foi. Mais si on n'est pas déterminé, si on n'est pas résolu, si on n'est pas discipliné avec nous-mêmes, si on n'a pas des principes du style D'abord, je sers le Seigneur. Ce que Dieu me demande, je le fais absolument. Alors, on est mal parti. Oh, bien sûr, parfois, il faut de la sagesse. Je vous dis pas qu'il faut être non plus extrémiste. Hein. Il faut de la sagesse. Moi, j'ai appris, par exemple, que je peux avoir un programme et puis mes enfants viennent complètement le perturber. Les parents, parfois, ils sont comme ça. Hein. Je ne vais pas commencer à dire à mes enfants, « Allez-vous-en, j'ai un programme, allez, non !» Je peux dire, « Ok, je fais d'abord ce que mes enfants demandent et puis je reprendrai ce que j'avais à faire. » Il faut de la sagesse aussi, n'est-ce pas? Faut pas, quand je dis ça, il faut pas non plus dire, ouais, donc, non, il faut de la sagesse. Mais il faut rester déterminé. Il faut être comme un roseau que l'on peut briser, enfin tenter de briser, mais dès qu'on lâche, il revient dans sa position. Nous devons être cela pour le Seigneur. Mais pour cela, nous avons besoin que Dieu transforme nos caractères. N'ayons pas peur de souffrir. N'ayons pas peur de nous imposer des choses, même parfois difficiles, parfois dures, pour aller de l'avant dans notre vie chrétienne. Laissons-nous transformer par le Seigneur. Ce n'est possible que si nous lisons notre Bible, si nous prions, si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons nos faiblesses, si nous prions devant Dieu, « Seigneur, je suis quelqu'un qui aime bien la médisance. Oh Seigneur, j'aime trop la médisance. Quand on se sait critiquer quelqu'un, oh, qu'est-ce que j'aime bien !» Il faut le dire à Dieu, « Seigneur, je veux que ça cesse. Je veux changer. Je veux plus ça dans ma vie. » Deuxième chose, notre tâche véritable est de nous occuper des autres et de les faire grandir. De leur permettre d'être solides dans leur relation avec Dieu. Et nos épreuves nous aident à ça. Puisque si nous avons été éprouvés, c'est pour que nous puissions savoir consoler les autres. Quel est notre objectif en tant que chrétiens? Sommes-nous de ceux qui nous occupons aussi des intérêts des autres pour les voir grandir, ou bien sommes-nous de ceux qui, bon, j'aide mon frère, j'aide ma sœur, ça s'arrête là. Ou je mets de la qualité là-dessus. Je dis, tiens, j'ai vu un bouquin, il m'a parlé de quelque chose. Ah oui, il m'a dit qu'il avait des difficultés avec la question de l'offrande. Ah oui, je vois un bouquin là. Tiens, je lui offre. Tiens, tu as des difficultés. Ben, ah, je vais prier pour toi. Et au moment où on prie pour lui, on demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir un mot, quelque chose, un conseil, quelque chose qui me permet de pouvoir apporter un plus dans sa vie. Et si nous commençons à nous enrichir comme ça les uns les autres, nous allons non seulement renforcer notre communion fraternelle, mais surtout, on va grandir tous. Et au moment de l'épreuve, nous allons nous encourager. Nous allons nous tenir par la main pour pouvoir continuer à faire face à l'épreuve. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec ce texte qui m'avait frappé, alors que nous sommes dans la période de l'ascension. Jésus est parti. Le relais est à nous maintenant, à nous de continuer. Laissons-nous transformer par le Seigneur. Que nos caractères changent, que nos caractères soient de plus en plus conformes à la volonté de Dieu. Ah! Je me disais, il y a quelqu'un qui a un truc caché, il le cache et puis... Et nous ne pouvons changer de caractère qu'à travers les épreuves. Acceptons donc les épreuves. Acceptons donc la souffrance. Deuxième chose, nous sommes là au service des autres pour les faire grandir, pour les valoriser, pour leur permettre d'aller de l'avant. Que le Seigneur nous aide à prendre notre témoin, notre relais, à prendre le bâton et avancer pour sa plus grande gloire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons simplement te demander que tu puisses agir à travers ta parole et que tu puisses permettre que ta parole prenne vie dans nos vies et nous permette d'aller de l'avant avec toi. Merci Seigneur pour le fait que tu agis en nous et tu veux faire de nous aussi vraiment des participants à ton royaume, à l'avancement de ton royaume. Seigneur, c'est un honneur que tu nous fais. Aide-nous aussi à t'honorer aussi en retour. Au nom de Jésus. Amen.